au quotidien avec Clotilde Seil.
Bonjour mes amis, il me fait très plaisir de vous retrouver une fois encore en ce mercredi 1er octobre 2014. Et oui, septembre est derrière nous, mais par contre, ce que nous avons devant nous, eh bien, c'est 2 heures à passer ensemble alors que je vais vous faire la lecture des journaux du jour en ce 1er octobre. Parmi les sujets qui seront traités, l'exception culturelle, austérité 101, on revient sur les conservatoires, sur le succès de Ricardo Larrivé, sur Rambo, le personnage de Rambo vu par VLB, la collusion à, pas à Montréal, à Gatineau, et puis la mort d'un fou de ski, d'un fou de neige aussi, enseveli sous celle-ci. Nous parlerons des vignettes à Saguenay, où il y aura quelques opinions en début de deuxième heure. Nous aurons quelques sujets internationaux. Netflix aussi sera à l'honneur. Natasha Kwan, le film Mommy, le théâtre, le peintre Van Gogh. Oui, je sais, je devrais dire Van Gogh, mais tant que je ne dis pas Mozart, je continuerai à dire Van Gogh. Et puis, le livre aussi, au pire, on se mariera. Et on finira par quelques mots. On fera un retour, en fait, sur le marathon de Montréal. Et je commence ce matin avec la une du Devoir. Les Catalans se battent pour le référendum. C'est en une. La santé, les services ne devaient pas être coupés, dit Barrette. Je reviens là-dessus tout de suite avec un éditorial de José Boileau. Autre titre, l'austérité n'empêche pas la relance du plan Nord. C'est cette fois-ci Jean-Robert Sanfasson qui s'exprime sur le sujet. Le gros titre aujourd'hui, avec cette photo à l'appui, le concert de protestation avec des dizaines d'étudiants en musique que l'on voit, qui ont protesté en chœur hier contre la fermeture appréhendée des 5 conservatoires de musique en région. Après avoir défilé place Marguerite Bourgeois, près du siège montréalais du ministère de la Culture, les étudiants en grève ont défilé jusqu'au quartier des spectacles où ils ont offert une prestation musicale. Le plan de redressement créé de la bisbille au sein même du CA, du Conservatoire. Et Francine Pelletier, aujourd'hui, signe une chronique qui s'appelle « L'exception culturelle » sur laquelle elle revient. Donc, au niveau du Conservatoire, elle revient sur ce problème-là. La chefferie, la course est lancée au PQ. Libéraux et caquistes voient en Pelado un adversaire, nous dit-on. Et puis les orphelins de l'Ebola, des milliers d'enfants sont abandonnés par crainte de la contagion. On voit en photo un enfant qui regarde des travailleurs humanitaires transporter le corps de son père, victime de l'Ebola à Monrovia au Liberia. Et puis, examen d'entrée payant quand l'école publique imite le privé. Des établissements offrant des programmes particuliers profitent d'un flou dans la loi, écrit Lisa-Marie Gervais dans Le Devoir de ce matin. Alors l'exception culturelle, je vous l'annonçais, c'est la chronique de Francine Pelletier ce matin qui écrit en substance « Malgré l'annonce de compressions massives dans les services gouvernementaux et une réforme de la santé qui ressemble davantage à un coup d'État, le temps est au beau fixe pour la nouvelle garde libérale. » Étonnant quand même. La personnalité rassurante, voire bon papa de Philippe Couillard, à mon avis, y est pour beaucoup. On semble faire confiance à l'actuel PM bien plus qu'aux 2 précédents. Seulement, écrit Francine Pelletier, il y a des limites à « Papa a raison ». La proposition d'abolir les conservatoires de musique en région et peut-être même les conservatoires de musique et d'art dramatique au complet est justement un pas à ne pas franchir. Il n'y a rien ici qui tient du gros bon sens et encore moins de la bonne gouvernance. D'abord, les conservatoires ont fait leurs preuves. Wilfried Pelletier, Joseph Rouleau, Claude Vivier, Yannick Nézet-Séguin, Jacques Lacombe, Angèle Dubaud, Marie-Nicole Lemieux, François Dompierre, Oscar Peterson, faut-il en rajouter ? Ces artistes ne sont pas seulement une fierté pour le Québec, ils font tourner l'économie. M. Couillard lui-même le rappelait cette semaine, on l'oublie trop souvent, mais les arts, c'est 13% de nos revenus, 4,1 millions par année. Au-delà de ce que ça rapporte ou de ce que ça coûte, les conservatoires offrent un enseignement dont on peut être fier. Plus qu'ailleurs, l'exception culturelle, terme inventé par la France pour souligner la protection que mérite la culture, devrait être la règle au Québec. La culture ici n'est pas simplement ce qui nous distingue de nos voisins, c'est aussi ce qui nous protège. Les arts, en d'autres mots, jouent un rôle politique chez nous. À défaut de s'être doté de frontières et d'un siège aux Nations Unies, l'essor culturel québécois est la seule affirmation, le seul point sur la table, la seule véritable indépendance que nous avons. Le Canada anglais, en comparaison, vit la situation exactement inverse. Son indépendance culturelle était sans cesse menacée par le voisin américain. Ses frontières et ses politiques sont la seule façon qu'il a de se protéger. Devant la possibilité de comprimer les arts pour mieux nourrir l'effort de guerre, nous raconte Francine Pelletier pour conclure son papier ce matin, le premier ministre britannique Winston Churchill aurait répondu, les mots exacts sont aujourd'hui contestés mais l'esprit demeure, « Alors, pourquoi nous battons-nous ? » Devant l'abandon possible des conservatoires de musique, on aurait envie de renvoyer la question au gouvernement Couillard. « Alors, pour qui vous battez-vous ? » Nous sommes toujours dans le devoir. Coupe en santé, faudrait assumer, écrit José Boileau ce matin. Philippe Couillard et Gaëtan Barrette l'ont redit mardi. Pas question de couper les services en santé. Alors, ce qui est passé hier au téléjournal est tout à fait déplorable, a précisé le ministre de la Santé, faisant allusion à de surprenantes décisions prises par l'Agence de santé de Montréal. Marche arrière donc de ce côté. Mais le reste, car reste, il y a. La nouvelle de Radio-Canada sur la coupe du salaire quotidien de 4,30 $ versé à des travailleurs ayant une déficience intellectuelle afin que l'Agence de la santé et des services sociaux de Montréal puissent équilibrer ses budgets était un tel symbole de petitesse que Gaëtan Barrette, ministre de la Santé, n'avait d'autre choix que de demander que cela soit renversé. « L'austérité a des limites », écrit José Boileau. Mais faire disparaître le symbole ne change rien au problème. Et il serait grand temps que le gouvernement cesse de faire l'autruche. Oui, des patients seront touchés par les coupes en cours et celles à venir. Est-ce que vraiment rien ne changera pour les patients du CSSS de Dorval-Lachine-Lassalle où 3 des 5 postes de l'équipe de psychogériatrie qui soutient les personnes âgées seules à domicile seront abolis? Les services étant transférés au soutien à domicile régulier, donc moins spécialisé, et où on précise que les patients considérés comme non prioritaires devront patienter. Et couper de 8,4 millions les services alimentaires du réseau montréalais de la santé, déjà amputé de 7,4 millions l'an dernier. Ça, c'était dans le devoir. Ça n'y paraîtra pas? Le prix des aliments aurait-il diminué? Car, à ce qu'on sache, la bouffe des CHSLD n'a pas jusqu'ici pêché par abondance ou par excès de qualité. Quand le premier ministre Philippe Couillard dit que les patients vulnérables ou les personnes âgées n'écoperont pas, est-ce sur ce genre de pirouette mentale qu'il s'appuie? Ah mais non, tout ça est la faute des méchants cadres de la santé. Heureusement, il s'apprête à les sabrer et ce jour-là, attention au tour de magie, l'argent reviendra dans les services. Le premier ministre avait beau jeu mardi, conclut Mme Boileau à l'Assemblée nationale, d'affirmer que les coupes surprenantes pratiquées un peu partout au Québec sont dues à de l'incompétence de la part des patrons de la santé. Il a dit « On s'attend à ce que les gestionnaires des réseaux publics fassent les choix, mais les bons choix ». Mais tout part de ces exigences, écrit José Boileau. L'odieux n'est pas que dans les coupes, mais encore bien plus de s'en laver les mains. Ça fait aussi la une du devoir ce matin. L'austérité n'empêche pas la relance du plan Nord. Le gouvernement Couillard veut investir des dizaines de millions pour attirer les minières. Du coup, il y a un éditorial de Jean-Robert Sansfaçon qui s'intitule « La suite, point de suspension », dont voici tout le début. Bien décidé à relancer le plan Nord, boudé par son prédécesseur dans sa forme originale, le gouvernement Couillard a annoncé hier 2 mesures importantes. D'abord, un investissement de 50 millions dans le capital action d'une filiale de gaz métropolitain pour substituer du gaz naturel liquéfié au mazout et au diesel dans les régions ressources. Ensuite, la renaissance du projet de création de la société du plan Nord, dont la première mouture était morte au feuilleton. Cette société d'État, dont le siège social sera situé sur la côte nord, aura pour mandat de coordonner l'ensemble des activités du plan Nord, incluant la construction d'infrastructures et la concertation avec les populations locales. Elle devra aussi mettre sur pied un bureau de commercialisation pour tenir les entreprises québécoises informées des besoins en équipement des donneurs d'ordre sur le territoire. Notons au passage l'ironie de cette décision de créer une nouvelle société d'État au moment où l'on s'apprête à sabrer celle qui existe déjà. Serait-ce que les sociétés d'État ne sont pas toutes inutiles?
Femme normale, star ou boudin, femelle en tout genre, je vous aime. Même à la dernière déconne, je veux dédier ces quelques vers issus de mon dégoût des hommes et de leur morale guerrière. Car aucune femme sur la planète sera jamais plus con que son frère, ni plus fière, ni plus malhonnête, à part peut-être Madame Thatcher. Je t'aime parce que lorsque le sport devient la guerre, y a pas de gonzesse ou si peu dans les hordes de supporters. Ces fanatiques fous furieux, abreuvés de haine et de bière, déifiant les crétins en bleu, insultant les salauds en fer. Y a pas de gonzesse ou liane, imbécile et meurtrière, y en a pas même en Grande-Bretagne, à part bien sûr Madame Thatcher. Je t'aime parce que une bagnole entre les pognes, tu ne deviens pas aussi con que ces pauvres tarés qui se cognent. Pour un phare un peu amoché ou pour un doigt tendu bien haut, y en a qui vont jusqu'à flinguer pour sauver leur autoradio. Le bras d'honneur de ces cons-là, aucune femme n'est assez vulgaire pour l'employer à tour de bras, à part peut-être Madame Thatcher. Femme, je t'aime parce que tu vas pas mourir à la guerre, parce que la vue d'une arme à feu fait pas frissonner tes oreilles. Parce que dans les rangs des chasseurs qui dégomment la tourterelle et occasionnellement les beurs, j'ai jamais vu une femelle. Pas une femme n'est assez minable pour astiquer un revolver et se sentir invulnérable, à part bien sûr Madame Thatcher. C'est pas d'un cerveau féminin qu'est sortie la bombe atomique, et pas une femme n'a sur les mains le sang des Indiens d'Amérique. Palestiniens et Arméniens témoignent du fond de leur tombeau qu'un génocide c'est masculin, comme un SS, un torero. Dans cette putain d'humanité, les assassins sont tous des frères, pas une femme pour rivaliser, à part peut-être Madame Thatcher. Femme, je t'aime surtout enfin pour ta faiblesse et pour tes yeux, quand la force de l'homme ne tient que dans son flingue ou dans sa queue. Et quand viendra l'heure dernière, l'enfer sera peuplé de crétins, jouant au foot ou à la guerre, à celui qui pisse le plus loin. Moi je me changerai en chien si je peux rester sur la terre, et comme réverbère quotidien, je m'offrirai Madame Thatcher.
Renault sur les ondes de Canal M et sa célèbre Madame Thatcher. À la une de la presse ce matin, la fièvre Ebola débarque aux États-Unis. Un cas de fièvre Ebola contracté en Afrique cependant a pour la première fois été diagnostiqué aux États-Unis hier. Les autorités se veulent toutefois rassurantes. La propagation du virus demeure hautement improbable sur notre continent. J'entendais ce matin à la radio qu'en fait il disait si à un moment donné il devait y avoir un autre cas suite à celui-ci, donc, d'un cas d'Ebola contracté sur le continent américain. Ça, ce serait plus inquiétant. Mais là, c'est quelqu'un qui a ramené ça du continent africain. Donc, pour l'instant, pas de panique. Offensive aérienne contre l'État islamique. Ottawa déploiera ses avions de chasse. Le gouvernement Harper se passera de l'appui du NPD et vraisemblablement des libéraux. Juste en dessous, avec photo de M. Xavier Dolan, qui a notamment assisté au défilé de Karl Lagerfeld, parce qu'il aime ça aussi, la mode de Dolan. Pourquoi est-ce qu'on reparle de lui? Parce que Mommy est présenté à Paris, tapis rouge pour le prodige québécois, nous dit-on. Pont Champlain, avec photo aussi. Opération survie. Malgré les millions investis, la structure continue de se dégrader. Alors la presse s'est rendue sous le pont, où se poursuit un chantier crucial, et elle a fait quelques photos de tout ce qui se trame en dessous du pont, simplement pour qu'il puisse toffer en bon français pendant encore les 5 prochaines années. Avalanche meurtrière au Chili, une légende québécoise du ski extrême périt. Il s'appelait Jean-Philippe Auclair. J'en parlerai aussi un peu plus tard. C'était un gars de Cap-Rouge. On en parle abondamment dans Le Soleil. Et puis le petit clin d'œil de Stéphane Laporte ce matin. Pour ne pas que les ponts soient désavantagés, le gouvernement Harper songe à mettre des péages sur toutes les rues. iPhone, outil social total, pusher perverse, écrit Patrick Lagacé dans le cadre de sa série sur le grand débranchement. Il écrit « Louis-José Houd est capable de faire quelque chose que vous et moi sommes incapables de faire. Non, je ne parle pas de faire rire et réfléchir des milliers de personnes avec des blagues d'une précision chirurgicale. Louis-José Houd, roulement de tambour, est capable d'éteindre son téléphone intelligent. » Il dit « Je le garde fermé des jours durant, alors qu'il est passager d'une auto qui fait route vers la Beauce où il allait présenter les heures verticales son dernier show. Je n'ai pas ce besoin-là et quand il est ouvert, je suis capable de me contrôler. » Louis-José Houd en a contre la chaîne invisible qui lie l'homme numérique à son téléphone. Il évoque le mot « dépendance », lui aussi, comme tant d'autres personnes interviewées pour cette série, confiante avoir déjà quitté des soupers d'amis devenus absurdes, tant les convives étaient plus captivés par les conversations se déroulant dans leur iPhone que celles autour de la table. « Si je te dis iPhone, à quoi tu penses, Louis-José? À individualisme, à manque de civisme, à fin des rapports humains. » dit-il. Et au sujet de souper de famille, justement, il nous dit Patrick Lagacé, avant de pondre cette série, j'en discutais avec des amis lors d'un brunch. La conversation a bien sûr dévié sur ce classique du 21e siècle qui irrite tant Louis-José Houd, les repas entre amis monopolisés par les conversations virtuelles des convives via iPhone. J'ai alors saisi le mien, dit Lagacé, et je me suis mis à pitonner. Au bout de 2 ou 3 secondes, j'ai lancé à la tablée. « Je fais quoi, vous pensez ?» « Ben, a dit Michel, tu regardes tes courriels ?»« Non, je paie mon stationnement. » En effet, j'utilisais l'application de stationnement Montréal pour payer ma place qui n'avait plus de crédit. Autour de la table, j'ai alors senti que tout le monde comprenait mon retrait temporaire du flot de la discussion. J'ai pris la position de la prière, penché sur mon iPhone. La discussion a repris sans moi. On m'avait attribué un visa temporaire pour aller m'égarer dans le virtuel afin d'éviter un ticket. J'ai payé ma place de stationnement. Et pendant que personne ne regardait, dit Lagacé, je suis allé voir si j'avais de nouveaux messages sur Facebook. Alain Dubuc écrit ce matin dans la presse, vous n'avez peut-être pas remarqué le texte signé par le prix Nobel d'économie Joseph Stiglitz que la presse a publié hier dans ces mêmes pages. Mais oui, on l'a remarqué, je l'ai même lu d'ailleurs. Mais vous pouvez être certain que plein de gens l'ont lu avec délectation dans les milieux qui s'opposent aux politiques de redressement budgétaire du gouvernement Couillard. Dans ce texte intitulé « L'austérité a échoué », l'économiste de Columbia pourfend Angela Merkel et les partisans européens de l'austérité qu'il qualifie de « désastre complet ». C'est du bonbon pour ceux qui se battent contre les compressions québécoises et qui ont maintenant un prix Nobel de leur bord, écrit Alain Dubuc. Il écrit entre autres « De ce point de vue, l'austérité a été un désastre complet. C'est évident si l'on considère les pays de l'Union européenne qui sont à nouveau au bord de la stagnation, si ce n'est d'une récession à triple creux avec un chômage qui reste à des sommets. Et dans beaucoup de pays, un PIB réel par habitant, corrigé de l'inflation, toujours inférieur à son niveau d'avant-crise. » Sa réflexion porte sur l'Europe. Reprend Alain Dubuc, il décrit une situation qui n'existe pas ici, même au Québec, qui manque de vigueur économique. Il n'y a pas de stagnation, encore moins de récession à triple creux. Le chômage n'est pas à un sommet, le revenu réel par habitant ne baisse pas. À cela s'ajoute un élément sémantique. Qu'entend-on au juste par austérité? Il y a une énorme différence entre des compressions sauvages, comme en Grèce ou en Espagne, et les contrôles budgétaires serrés du Canada ou du Québec. Au Québec, les dépenses ne baissent pas, elles continuent d'augmenter, mais à un rythme moins rapide que si on les laissait croître sans contrainte. Ce ralentissement du rythme de croissance des dépenses, malgré ses effets spectaculaires, reste trop modeste pour freiner l'économie, d'autant que les investissements publics continuent d'être importants. Les conséquences macroéconomiques des politiciens d'austérité, dont parle Joseph Stiglitz, sont trop faibles au Québec et au Canada pour constituer un enjeu. Les villes avancent, Montréal recule, écrit François Cardinal dans la presse. Strasbourg a beau être une ville millénaire, c'est une ville ancrée dans le 21e siècle. Une ville qui planche sur une 7e ligne de tramway, qui vient de lancer son réseau de bus rapide, qui réaménage son centre au profit du piéton, qui continue d'étendre le plus imposant réseau cyclable de France. Et à quoi rêve Montréal pendant ce temps-là? À un prolongement d'autoroute à Laval, écrit François Cardinal. C'est le triste constat que j'ai dû faire à l'ancienne mairesse de Strasbourg, Catherine Trottmann hier, un constat désolant que j'avais un peu honte de tirer devant la visite pour tout vous dire. Et c'est sans parler du manque d'intérêt du maire pour les solutions alternatives à l'auto comme Uber, Car2Go ou encore Automobile. Une attitude qui nous ramène directement à l'époque où mobilité rimait avec routier. Catherine Trottmann, aujourd'hui conseillère municipale, est trop polie pour commenter ce virage, mais clairement, celle qui a présidé l'Institut des villes n'en pense pas moins. Elle dit « Montréal a la chance d'être une ville que les gens ont plaisir à marcher. C'est une ville qui jouit d'une bonne offre culturelle et de marché public, d'une vie de surface très riche. Il y a à Montréal une attractivité particulière sur laquelle il est possible de bâtir. L'important est de valoriser la ville, estime-t-elle, ce que l'on ne peut tout simplement pas faire en misant sur l'automobile et en augmentant la capacité routière. » Faire face à la musique, écrit ce matin Nathalie Petrovski dans la presse. Lettres ouvertes, pétitions, protestations, manifestations, concerts impromptus en pleine ville, il n'y a pas à dire. La fermeture appréhendée du réseau des conservatoires soulève les passions, mais fait surtout naître une importante mobilisation. Après un premier concert devant l'Assemblée nationale à Québec la semaine dernière, c'était au tour hier des élèves du Conservatoire de Montréal de se faire entendre. Leur concert a débuté rue Notre-Dame devant les anciens locaux du Conservatoire, puis une marche de solidarité a conduit les musiciens devant la Place des Arts pour une autre prestation. Mais les membres de l'Association des élèves du Conservatoire de musique de Montréal ne font pas que jouer de la musique. Ils ont aussi écrit une lettre à la ministre qui rappelle l'influence des conservatoires sur le foisonnement des orchestres en région et sur le nombre de chaises occupées par des diplômés des conservatoires dans tous les orchestres locaux. À l'Orchestre symphonique de Montréal, par exemple, le tiers des chaises est tenu par des anciens du conservatoire. À l'Orchestre métropolitain, le chiffre grimpe à 60%. Et à l'Orchestre symphonique de Québec, à 83%. Bref, fermer les conservatoires, c'est hypothéquer sérieusement l'avenir de la musique classique au Québec. Ce qui m'amène à une question par rapport au directeur général qui a laissé la dette gonfler, car on s'aperçoit qu'effectivement, il y a une énorme dette et c'est à cause de cela qu'on pense éventuellement à fermer les conservatoires. Alors, Petrovski se dit, mais que faisait donc le directeur général pendant toutes ces années, alors qu'il voyait bien les colonnes de chiffres déficitaires s'allonger? Pourquoi n'a-t-il pas envoyé des signaux d'alarme au gouvernement? Pourquoi n'a-t-il pas fait des pieds et des mains pour obtenir l'augmentation de la subvention annuelle afin de couvrir toutes les charges encourues par le conservatoire? Pourquoi a-t-il permis tous ces travaux de réfection et forcément cette augmentation des loyers à Val-d'Or, Gatineau et Trois-Rivières, alors que son réseau n'en avait pas les moyens? Difficile de quitter M. Beethoven, mais que voulez-vous? Tiens, partons avec Ricardo à la conquête du monde, écrit Sophie Durocher ce matin dans le Journal de Montréal. Ricardo Larrivé voit grand. En plus de son magazine, ses livres de recettes, la production de Ricardo et Ricardo and Friends à Food Network et Global, ses 1001 articles de cuisine, son vin blanc, son vin rouge et son site internet. Il a lancé il y a 2 semaines la version anglaise de son magazine de bouffe. Waouh ! Il a expliqué au magazine Les Affaires qu'il veut conquérir les États-Unis et ensuite le monde. Amenez-en des ambitieux comme ça, écrit Sophie Durocher. Au Québec, trop souvent, ce mot est une injure comme péteux de broue ou pelleteux de nuages. J'ai été jeté à terre par le dossier des affaires. Je ne soupçonnais pas que le chef avait autant d'impact. Il affirme que le dimanche, un Québécois sur 3 consulte ricardocuisine.com pour se faire une bouffe. Je ne me rendais pas compte de toutes les tentacules de son empire. Il va bientôt ouvrir une boutique espace Ricardo à Saint-Lambert et lancer la chocolaterie Mama Choca. Et puis, je suis tombée sur cette phrase de Ricardo qu'on devrait inscrire en lettres d'or dans les écoles de la province. On n'a peur de rien, on veut être les premiers dans le monde. Mais oui, c'est vrai qu'au Québec, ça nous en prend, des gens comme ça. On va lui souhaiter bonne chance. Je vous rappelle que vous écoutez Clotilde Say, vous êtes sur les ondes de Canal M. Je vous fais la lecture des journaux jusqu'à midi.